Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Très très bon. Il y aura quelques scènes tournées dans mon salon sans prétention.
Bon vendredi à tous et à toutes. Bienvenue à ce nouvel épisode de Ciné Histoire en ce vendredi 20 juin. L'été s'amorce prochainement. Hein? C'est la fin des classes. Donc, qui dit fin des classes dit l'arrivée des blockbusters dans les cinémas. Donc, assurément que cet été sera assez garni de blockbusters. Je ne sais pas lesquels vont pouvoir rencontrer leur public, mais bon, la semaine dernière, on a fait un petit topo là, sur les nouveautés qui allaient prendre l'affiche cet été, donc à suivre. Aujourd'hui à l'émission, on vous parle de deux nouveautés qui prennent l'affiche, donc le film Les Barbares de Julie Delpy, ainsi que le film Partir un jour, donc le film qui a ouvert la dernière édition du Festival de Cannes d'Amélie Bonin. Donc ces deux films prennent l'affiche aujourd'hui. On va également parler, ce sera une plus petite émission, là, je suis seul, comme vous le constatez peut-être, mais c'est ça, donc on était en vacances cette semaine, donc ce sera un épisode un peu plus court que la normale, mais on aura quand même la chronique dans ma watchlist qui s'intéresse cette semaine au film Inherit the Wind de Stanley Kramer, pardon. Donc film de 1960, un drame de justice très très bon. Vous allez voir, là, je vous parle de quoi, je vous présente le film un peu plus tard à l'émission. Il y aura également la chronique sur les tablettes, donc où je visionne un film de ma collection que je remettais toujours à plus tard. Et donc cette semaine, c'est le film de 2007, Blades of Glory, donc avec Will Ferrell. Film tourné en partie à Montréal, où Montréal est très reconnaissable aussi, fait partie de l'histoire. Donc voilà, je vous en dis pas plus. Restez à l'écoute pour entendre ça un peu plus tard à l'émission. Et puis, voilà, c'est pas mal. Ce sera pas mal le programme pour aujourd'hui. Je commence avec quelques nouveautés cinéma. On a annoncé en milieu de semaine, donc je crois que c'était mercredi, les gagnants des Oscars honorifiques, en fait, des Oscars, voilà ça, Oscar d'honneur des Governors Award, donc qui seront remis à Dolly Parton. Dolly Parton, c'est le prix humanitaire Jean Ehrschult, mais Dolly Parton, Debbie Allen, Wynne Thomas et Tom Cruise. Et oui, Tom Cruise qui recevra enfin un Oscar, même si ce n'est pas un Oscar compétitif. D'ailleurs, la plupart des gens, ou je crois, ouais, c'est ça, tous les gens n'ont pas gagné d'Oscar, je crois, parmi tous ceux là. Pour Tom Cruise, évidemment, c'est pour pour les cascades spectaculaires qu'il fait, mais aussi pour sa mission de préserver l'expérience cinématographique, l'importance du cinéma en salle. Donc voilà, bon, c'est évidemment Top Gun avec Mission Impossible. Il a toujours, je crois, voulu repousser les limites pour offrir du cinéma de qualité, du cinéma d'action intéressant à voir sur grand écran. Il avait été nommé deux fois avant, je crois, trois fois. Donc pour Born on the 4th of July, pour Jerry Maguire et pour Magnolia. Il n'a jamais remporté, malheureusement. Donc voilà, c'est chose faite, entre gros guillemets. Il y a des autres, Debbie Allen, qui est une chorégraphe qui a joué un rôle essentiel, en fait, dans la cérémonie des Oscars. Elle a chorégraphié, je crois, 7 cérémonies au fil des années. Elle a eu quelques nominations aux Emmy Awards, mais jamais de nomination aux Oscars, notamment parce qu'elle n'est pas tant que ça dans le milieu du cinéma. Mais bon, elle est dans la cérémonie des Oscars. Wynne Thomas, c'est un chef décorateur qui a beaucoup travaillé avec Spike Lee, mais qui n'avait jamais obtenu, je crois, de nomination. Je ne sais pas si c'est lui qui retravaille avec le nouveau film de Spike Lee, là, qui va prendre l'affiche un peu plus tard cette année, Highest to Lowest, mais il avait travaillé sur Malcolm X, notamment. Donc voilà. Dolly Parton, c'est ça, c'est pour son engagement humanitaire. Elle avait déjà été en nomination là, pour meilleure chanson originale. Elle avait la fondation Dollywood et le programme littéraire Dolly Parton's Imagination Library. Et puis, c'est ça. Donc, elle va recevoir ce prix Jean Ehrschult, humanitaire. Et puis, est-ce que... Il me semble qu'il m'en manque une personne. Bon, non, finalement, c'est les quatre. voilà, donc la cérémonie se tiendra là, en novembre. C'est toujours quelques mois avant la cérémonie officielle des Oscars. Donc, félicitations aux lauréats. Il y a eu aussi, en termes de nouveautés, ben, la sortie de la bande-annonce du nouveau film sur Bruce Springsteen, donc où Jeremy Allen White va interpréter le rôle-titre, voilà, c'est Scott Cooper qui réalise ça. Moi, Scott Cooper, ben, j'ai pas vu beaucoup de ses films, mais il y en a un en particulier, puis qui se rapproche un peu de celui-là. C'est le film Crazy Heart avec Jeff Bridges, un film que j'ai vraiment beaucoup aimé à sa sortie, que j'ai regardé quelques années après aussi, puis que j'ai encore aimé. Il n'a pas sorti beaucoup de films. Il a fait The Pale Blue Eye il y a quelques années, 2 ans, je crois, avec Christian Bale. Bon, peut-être un peu moins intéressant, mais là, c'est ça, on s'attaque vraiment à The Boss. Donc, le film va s'appeler Springsteen Deliver Me From Nowhere. Voilà. Sinon, en termes de nouveautés, ben, il y a Suzanne Clément, si on reste dans les biopics, qui va incarner Pauline Julien au grand écran dans le film d'Anaïs Barbeau-Lavalette. Donc, Pauline Julien, femme pays. Il n'y a pas beaucoup de détails encore. Là. Le film est tout juste à ses débuts, mais ce sera intéressant à voir. Pauline Julien, figure emblématique de la culture et même contre-culture québécoise. Donc, voilà. Si on parle des films qui prennent l'affiche aujourd'hui, ben il y a évidemment là, ça commence à s'accélérer en termes de sortie. Il y a évidemment 28 Years Later, donc le troisième opus de la trilogie, cette fois réalisé par Danny Boyle, donc qui avait réalisé le premier, mais pas le deuxième. Les critiques sont très positives. J'ai pas eu la chance d'aller le voir, mais ce sera fait, au courant du week-end. Et la semaine prochaine, je vous prépare un petit topo sur la franchise jusqu'à présent, parce qu'on a déjà annoncé 2 autres films qui seront 28 Years Later, partie 2, partie 3, je crois. Donc, Danny Boyle va réaliser le troisième volet également de ça. Donc, le deuxième, c'est pas lui qui le réalise. Mais bon, la critique est toujours positive. Et puis, moi, j'ai beaucoup aimé en fait cette franchise-là, peut-être plus le deuxième que le premier. Là, je sais que peut-être des die-hard fans qui me jugent en ce moment, mais c'est ça, je l'ai visionné récemment. J'avais déjà vu le 28 Days Later, mais 28 Weeks, j'avais toujours l'impression que c'était une suite cash grab, et je crois qu'il y a encore des gens qui ont cette impression-là, mais moi j'ai vraiment apprécié, ça m'a beaucoup fait penser à la série The Last of Us. Bref, voilà, je ferai un topo la semaine prochaine. Et également Elio, le nouveau Disney Pixar, donc d'un petit jeune qui veut se faire enlever par des extraterrestres. Le buzz semble limité, on va dire, mais je crois que c'est la seule proposition de Disney Pixar de tout l'été, donc je crois qu'il va quand même rester longtemps à l'affiche. Est-ce que je serai capable de le regarder? Peut-être. Je sais pas, peut-être que mon fils voudra aller le voir. Je lui ai présenté la bande-annonce et il semblait intéressé par le voir, mais c'est ça, des fois les salles de spectacle, les salles de cinéma sont un peu trop fortes, puis il aime pas beaucoup ça. Fait que on verra si je serai capable de le regarder dans son entièreté, mais il m'intéresse quand même, malgré que c'est ça, le buzz soit presque aussi gros que pour Luca ou pour Onward, ou bref, tous ces films-là qui ont moyennement rencontré leur public. Donc, c'est ce qui fait le tour, évidemment, avec les 2 nouveautés là, que je vais vous présenter après la pause, donc Les Barbares ainsi que Partir un jour. Donc, c'est ce qui fait le tour des nouveautés. On s'en va en petite pause publicitaire et on revient dans quelques instants.
Un jour, je vais faire un film. Je ferai la prise de son, la réalisation, le montage et la direction photo.
Pimpon, c'est une ville qui bouge pas mal, hein? Dès que les Russes ont envahi l'Ukraine, tout le village s'est mobilisé.
C'est vrai que les Ukrainiens, ils ont beaucoup souffert. J'ai voté pour qu'on les accueille.
Hervé Rioux, adopté à l'unanimité.
Je me suis occupé de tout l'administratif pour la venue des réfugiés.
Excusez-moi, il faut que je vous parle.
C'est qu'il y a eu tellement de demandes de réfugiés ukrainiens, il n'y en a plus.
En fait, ce sont des Syriens.
Des Syriens qui viennent d'Ukraine.
Non, de Syrie.
Il a 3 femmes, le gars.
Mais non, je te dis, il y a aussi sa sœur et sa fille.
J'ai aucun problème, hein. Arabe,
c'est pas une insulte, hein.
Non, non, ça vous filmez pas, hein. Non, 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 non. Non, 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 non.
Le racisme, c'est les gens qui aiment pas les noirs. Mon père, il aime bien Mbappé ou Omar Sy.
Le racisme, ça vient de la peur.
Bonjour.
La peur qu'on leur prenne leur femme.
Pourquoi tu fais coucou, toi? Quoi?
Welcome here. La peur qu'on leur prenne leur travail. Anne et Philippe ont décidé de vous offrir des produits d'ici.
Oui, enfin, il y aura des produits qui seront un peu périmés d'une ou deux journées, mais c'est très bon, moi je mange que ça.
Ça,
à vous?
Vous la voulez? 1 euro.
Quoi?
1 euro, putain, fils de pute, 1 euro.
J'en ai marre d'être habillée avec quelqu'un qui fait ça, qui veut pas aider les autres.
Si t'étais Mère Teresa, ben tu serais en Syrie. Tu serais pas à Pimpon, là.
Tu t'es déjà imaginé ce que c'est? T'arrives d'un pays en guerre, dans un pays où t'as aucun repère et on t'insulte.
Faut créer une dynamique autour des faillades.
C'est-à-dire? Je comprends pas. Je parle pas le Macron, moi.
Défendre notre identité régionale, l'âme bretonne.
Mais t'es alsacien.
On commence notre tour d'horizon des nouveautés cette semaine avec le film Les Barbares de Julie Delpy, qui est l'actrice qu'on connaît évidemment pour la Before Trilogy du côté américain. A quand même à son actif, je crois, 7 ou 8 longs métrages à la réalisation. C'est son premier depuis, je crois, My Zoé de 2019. Donc, ça fait quand même presque un peu plus que 5 ans qu'elle n'a pas réalisé. Elle joue également dans le film, donc elle joue Joël, cette femme institutrice qui veut accueillir justement des migrants, d'abord ukrainiens, mais ensuite ce sera des Syriens, comme vous l'avez entendu dans la bande-annonce. C'est un film, évidemment, récit assez typique de petites villes qui veulent accueillir, des « outsiders », entre guillemets. Il y a toujours des gens pour et contre cet accueil. Ça fait écho à, par exemple, des « Old Oak » de Ken Loach, qui était sorti il y a un an ou deux, je crois, déjà, où c'était la même chose aussi. Je crois que c'était des Syriens qui arrivent dans un village anglais. Ça peut même faire écho à, par exemple, « La Grande Séduction », film québécois où on veut accueillir un médecin, je crois, séduire un médecin pour qu'il s'établisse sur l'île bucolique. Donc, c'est ça, relativement familière qui malheureusement sans rater sa cible je crois mais réussit pas toujours à passer son message, mais je mets ça entre de gros guillemets parce que ultimement je crois que c'est un film qui se veut grand public et qui aborde en surface les enjeux de la crise migratoire, des réfugiés politiques et de l'accueil aussi, de l'altérité, bref, cette peur de l'autre, le racisme. Non, ça aborde tous ces thèmes-là, mais de façon grand public. Donc, c'est ça, avec relativement peu de nuances, je crois, avec plusieurs clichés, raccourcis scénaristiques. Est-ce que ça en fait un moins bon film? Pas nécessairement, mais c'est ça. Je me demande toujours, dans des films engagés comme ça, à qui ça s'adresse? Est-ce qu'on s'adresse à des gens qui sont racistes ou qui ont une incompréhension de l'autre, on va dire ça plus comme ça? Peut-être, mais est-ce que ce sont eux, concrètement, qui vont aller dans la salle? Je suis pas certain. C'est toujours un peu comme ça. Je le dis à plusieurs films de fiction, comme Don't Look Up, plus une fable environnementaliste, qui s'adresse souvent à des initiés. Donc, moi, évidemment, je ne suis pas raciste. J'ai cette ouverture-là. C'est pas le cas de tout le monde, mais j'ai l'impression que c'est ça. Avoir un film comme celui-là, ça m'a pas appris grand-chose ou ça n'a pas apporté de nuances, ou même au niveau des personnages, j'ai pas pleinement trouvé mon compte parce que c'est ça, on reste plus dans le cliché ou je veux pas dire dans la caricature, là, mais c'est ça, dans des personnages qu'on connaît, qu'on côtoie au quotidien et donc il y a un petit sentiment de redite. Par contre, je vous mentirais si je vous disais que j'ai pas ri à quelques reprises, ce qui est déjà quand même bon signe parce que je suis un public quand même assez difficile en termes de comédie. Ici, je crois la comédie vient surtout du bon jeu, de la distribution distribution. Parce que c'est pas nécessairement au niveau des répliques, mais c'est des fois au niveau de comment est-ce que ces répliques-là sont livrées. Le film en vedette, outre Julie Delpy, Sandrine Kiberlain, Laurent Lafitte, qui joue honnêtement, ben, c'est pas voulu là, parce que c'est un film français, mais il ressemble vraiment à Boisvert dans Les Boys, t'sais, personnage un peu exécrable avec un ce qu'on appelle un goatee, là, une espèce de barbe autour de la bouche. T'sais, ultra de droite avec les clichés conspirationnistes et tout. Honnêtement, il réussit à élever le film, même si c'est sur son personnage n'a à peu près aucune nuance. Il y a India Air également, Mathieu Demi. Donc, il y a le père aussi, je crois, de Julie Delpy, donc Albert Delpy. Et le maire est joué par Jean-Charles Clichet. Une autre thématique peut-être qui est la plus intéressante, mais qui est elle aussi... très, ben, pas peu exploré, mais disons, il n'y a pas beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais c'est peut-être le capital politique qu'on fait de la crise migratoire et puis des réfugiés politiques. Là, c'est une petite localité qui veulent se targuer peut-être d'accueillir des Ukrainiens d'abord. Bon, ensuite, ce sera des Syriens. C'est l'aspect le plus... on va dire nouveau, hein, c'est ça, que j'ai constaté, qui est abordé, c'est ça, de surface, parce que c'est pas non plus quelque chose qui a beaucoup de substance, puis c'est pas le focus principal, mais il y a une équipe de tournage qui est là pour faire un reportage local sur l'arrivée des migrants. Donc, il y a quelque chose d'un peu inconfortable qui... C'est pas un malaise, là, mais tu sais, il y a de quoi, puis tu sais, c'est arrivé dans plusieurs villages, je crois, qui ont accueilli des communautés migrantes à travers les années, mais c'est ça, de vouloir les filmer, de vouloir un peu explorer, c'est ça, leur tragédie. Il y a même une scène là, dans le milieu du film, je crois, là, où on leur demande, pour le reportage, mais aussi pour la population locale, on demande aux Syriens d'expliquer un peu pourquoi ils sont réfugiés. Puis là, il y a des. Évidemment, ils vont montrer des images très graphiques d'attaques qu'il y a eu par le régime de Bachar al-Assad. Donc, c'est ça. Il y a ce capital politique qu'on tire de vouloir redonner au suivant. C'est la partie que j'ai le plus préférée, mais c'est ça. Elle manquait peut-être un peu de chair autour de l'os quand même. C'est ça. Moi, j'ai honnêtement, c'est ça. Je suis un peu mitigé parce que ultimement, je suis pas, encore une fois, le public cible. J'ai l'impression de dire ça pour beaucoup de films français, là, mais c'est vrai, malheureusement, parce que je crois qu'il y en a beaucoup qui viennent ici au Québec parce que c'est un public plus âgé qui s'intéresse aux films français, soit par nostalgie ou par... je sais pas. J'ai l'impression que les plus jeunes ne vont pas voir nécessairement ces drames-là. C'est dommage parce qu'il y en a des très bons, mais c'est ça. N'empêche que je crois que la sélection des films qui traversent l'Atlantique, à moins que ce soit un blockbuster ou un film qui a vraiment tout arraché en France, comme L'Amour Ouf l'année dernière, ben c'est ça. Je crois que ça s'adresse toujours à un public un peu plus âgé. Et puis, c'est ça. Je crois qu'ils peuvent y trouver leur compte, mais... C'est ça, je crois que les jeunes ont déjà cette ouverture-là aux autres, même si on constate, là, je pense qu'il y a des études là, qui ont été faites pendant le temps des élections aussi, là, qu'il y a de plus en plus de jeunes qui sont conservateurs. Mais bref, en tout cas, je ne sais pas si c'est moi qui vis dans ma tour d'ivoire ou qui vis dans une ville quand même un peu plus à gauche comme Sherbrooke, mais j'ai l'impression quand même que les jeunes font déjà preuve de cette ouverture d'esprit-là. Alors, si ce film-là va à la rencontre des personnes un peu plus âgées et réussit à, ne serait-ce que, tu sais, favoriser une certaine forme d'ouverture, là, on peut pas non plus, quelqu'un qui est raciste, c'est quand même des trucs difficiles à changer, une mentalité difficile à changer, mais, puis je pense pas que c'est le film qui va le faire, qui va faire ce changement-là non plus, mais je crois quand même qu'il peut amorcer un début de réflexion sur les réfugiés, sur les crises politiques qui secouent le monde, même encore aujourd'hui. On le voit avec l'Iran et Israël qui se bombardent depuis quelques jours déjà. Donc, c'est ça. C'est un monde assez troublé dans lequel on vit. Et puis, on essaie justement de favoriser la discussion avec un sourire en coin. Je pense que la comédie est un bon moyen de favoriser justement cette ouverture-là, mais qui sera dans la salle au final? Est-ce que ce sera des initiés ou ce sera des gens qui justement véhiculent peut-être ces préjugés-là? Je sais pas. C'est ça. J'ai somme toute apprécié, même si c'est ça, le film est quand même un peu cliché par sa nature, mais je vous le conseille. Si vous avez aimé des films comme La Grande Séduction ou c'est ça, Petit Village Charmant essaie de séduire ou d'accueillir des outsiders, et puis de façon maladroite aussi, tout le monde est un peu pathétique dans ce film-là. Ça rajoute évidemment à l'aspect comique, mais c'est ça, je pense que la distribution y est pour beaucoup, pour élever un peu la qualité de ce film-là. Donc voilà, c'était le film Les Barbares de Julie Delpy qui prend l'affiche aujourd'hui à la Maison du cinéma.
Un jour je vais faire un film, j'ai déjà écrit le script. Dans le scénario, il n'y a pas du tout de tragédie.
Salut maman.
Oh ma fille.
Qu'est-ce qu'elle fait là? C'est toi qui l'as appelée?
La question c'est plutôt qu'est-ce que toi tu fais là?
Bah alors Béguin, tu t'es perdu?
C'est sûr qu'en bougeant jamais du bled où t'es né, toi tu risques pas de te perdre. Je suis là parce que mon père avait un infarctus.
Ah merde.
Il faut pas que je m'énerve. Et ça m'énerve.
C'est toi la dame qui a gagné Top Chef?
Oui, j'ai mon resto à Paris, tu sais. Oh putain, c'est Dieu baisse.
Le Dieu baisse! Allez, ça part pour la vite, ça part pour la vite!
Mais c'est pas cool! Je vais devoir rester plus longtemps finalement. C'est compliqué avec mon père.
Faut savoir ce qui te fait rire.
Il y a bien encore qu'ici qu'on fait de la Macédoine.
C'est qui ce mec?
Raphaël, mon vieux pote de collège. Sofiane, mon mec.
Cécile m'a beaucoup parlé de toi. Moi, elle m'a pas parlé de toi du tout.
Acharné, mourir ici, dans cette cuisine?
T'as qu'à rester nous aider.
Mais j'ai une vie, putain, papa.
Oh bah ça, on avait bien compris, hein.
Je sais pas comment tu fais, parce que moi, je le trouve particulièrement insupportable.
Mais moi aussi, je le trouve insupportable.
Qui dit crise?
Des mondes, des famines, des tiers-monde.
Qui dit amour?
Dis les gosses, dis toujours et des divorces.
Alors on danse.
S'il y avait un problème, tu me le dirais.
Ah, tu veux que je te fasse une roue arrière, rien que pour toi?
C'est trop tard, mec.
Partir un jour, c'est le film qui a ouvert la 78e édition du Festival de Cannes il y a quelques semaines déjà. Et c'est le premier long métrage, si je ne m'abuse, là, de Amélie Bonin, donc française, qui s'intéresse. Ben, je ne sais pas si la bande-annonce a rendu justice à tout ça, là, mais c'est une forme de comédie musicale, mais pas. Totalement. En fait, il y a des numéros musicaux. Je pense qu'on a entendu « Alors on danse » de Stromae. Mais c'est ça, c'est une comédie musicale, mais très, je sais pas, pas grandiose nécessairement. Là, pas comme des adaptations de musicals de Broadway. Ou, tu sais, on est quand même loin de ça. Ça m'a fait beaucoup penser, en fait, là, personne n'a le référent ou presque, mais le film Leto, qui est un de mes films préférés, mais où... oui, il y a des numéros musicaux, mais ils sont pas parfaits, ils sont pas grandioses, ils sont même tronqués ici, ça m'a surpris. Tu sais, les chansons ne jouent pas au complet, des fois c'est quelques répliques, des fois on nous nargue un peu, on entend une musique familière, puis finalement il n'y a pas de numéro musical qui vient, ou en tout cas au moment où les gens se mettent à chanter, il y a quelque chose qui les interrompt. Donc on joue un peu avec la forme du film musical, ce que j'ai beaucoup aimé. Et qui rehausse vraiment la qualité de ce film-là, qui est, somme toute, relativement familier. C'est l'histoire un peu typique d'une femme qui doit revenir dans son village originel, pour s'occuper de son père qui est malade. Bon, là, la femme en question, c'est Céline Béguin, qui est jouée par Juliette Armanet, qui est musicienne ou chanteuse, je crois, dans la vraie vie. C'est ça, donc, qui est, dans ce film-là, une chef renommée qui est sur le point d'ouvrir son nouveau restaurant. Elle a joué, elle a été l'une des vedettes de Top Chef France. Donc, elle revient dans son village. Son père et sa mère ont un relais routier, là, donc un petit restaurant où les truckers, là, les camionneurs s'arrêtent pour manger. Et puis, c'est ça. Là, elle revient, elle a dit peut-être des mots, en tout cas, qui dénigraient peut-être un peu là, ces restaurants de bas de gamme, entre guillemets. Et elle se le fait rappeler à de nombreuses reprises lorsqu'elle retourne chez ses parents, justement. Donc, trame assez familière. Puis là, elle retrouve son... je pense pas que c'était son amoureux, mais en tout cas, quelqu'un sur qui... elle avait un kick au secondaire, là, je crois, là. Et puis qu'elle n'a pas revu depuis. C'est ça, là, ils commencent à flirter un peu ensemble, même si les deux sont dans des relations amoureuses différentes. Et même que l'un d'entre eux, le gars, en fait, a une famille, donc un fils et tout ça. Quoi dire de ce film-là? C'est un film très bon joueur, puis moi, je suis pas un grand fan de comédie musicale, puis j'ai quand même trouvé mon compte. J'ai vraiment aimé le... C'est ça, l'aspect très, très authentique du film. C'est drôle à dire d'un film musical, mais comme je le mentionnais, c'est ça, les gens qui chantent ne chantent pas si bien que ça. Les numéros sont jamais trop extravagants, mais c'est vraiment sympathique. Ça aide aussi qu'on connaisse la plupart des chansons. On ne les connaît pas toutes là, non plus. Je crois que peut-être le public français ou européen auront plus de référents, peut-être même tous les référents des chansons qui sont là. Mais la plupart ont des airs familiers, puis même une chanson de Céline, je crois. Je ne suis plus certain, mais en tout cas, il y a mention de Céline dedans. Mais c'est ça, donc j'ai aimé l'esprit bon joueur, le fait qu'on s'assume pas pleinement en tant que film musical, mais ultimement que la musique soit pas partie intégrante. Moi, c'est souvent ce que je reproche aux films musicaux, c'est tu veux juste nous chanter des chansons, puis il y a une histoire autour de ça. Là, c'est un peu l'inverse. Il y a une histoire, puis les numéros musicaux reflètent un peu l'état d'esprit ou font avancer l'histoire d'une certaine façon. Donc, des personnages, c'est ça. C'est plus une émotion, comme si on partait sur une bulle, puis on essaie de faire sentir l'émotion que les personnages font vivre. Donc, à ce niveau-là, j'ai quand même bien aimé la proposition. C'est loin d'être parfait. Je crois que le principal problème du film, c'est d'être trop familier, d'avoir une histoire un peu trop familière. Je crois qu'il y aurait eu moyen peut-être d'avoir une histoire un peu plus intéressante ou un peu moins cliché que celle-ci. Par contre, je pense que la distribution qui est quand même... En tout cas, pas, moi, il n'y a pas beaucoup d'acteurs que je connaissais. Le Love Interest, donc l'homme Bastien Bouillon qui joue Raphaël, je ne connais pas beaucoup. Il y a le père qui joue par François Rollin qui, lui, a eu quand même une un peu plus grande carrière. Mais même lui, on ne le voit pas souvent au cinéma ici au Québec, là, en France, oui, évidemment. Il y a Dominique Blanc, donc qui, elle, est quand même bien connue, mais joue un rôle, c'est le rôle de la mère, donc un peu plus effacé. Mais c'est ça, je crois que ce qui ressort de mon visionnement, c'est juste... C'est ça, c'est un renouveau peut-être de la comédie musicale. Pas de la comédie musicale, là, oui, mais aussi de la comédie romantique. Là. Je sais pas, il y a le film... L'entremetteuse, là, je sais pas pourquoi le titre me vient pas en anglais, mais de Céline Song, qui avait fait Past Lives aussi. On sent qu'il y a peut-être un désir de redonner des lettres de noblesse à la comédie romantique. Tant mieux, je crois que c'est un genre qui souvent a été, pas nécessairement délaissé, mais qui est fait un peu sous le pilote automatique depuis... depuis longtemps, là, mais même depuis les années 90-2000, on dirait que c'est ça, les films manquent de quoi d'intéressant. Peut-être s'adresse un peu plus habituellement à un public féminin. Là, on essaie de rejoindre un public masculin ou en tout cas un plus large public. Je sais pas, mais je sens vraiment qu'il y a une tendance à vouloir tout ça, redorer tout ça, comme il y a eu il y a quelques années un mouvement pour faire des films d'horreur de qualité. Là, je crois que l'horreur maintenant est peut-être pas... ultra bien considéré, mais à cause de films comme Héréditaire, comme Midsommar, comme The Witch, comme en tout cas c'est ça. Il y a un renouveau de l'horreur, je crois, qui fait qu'on s'intéresse maintenant. C'est pas juste comme un film pour remplir une salle ou qui s'adresse à un public plus niché. On essaie de rester un peu plus large. J'ai l'impression que ce film-là essaie de faire ça. Il n'y a pas eu de super bonnes critiques à sa présentation à Cannes, malheureusement. probablement aussi parce que ça s'adresse un peu plus à un public français qu'à un public international. Cela dit, c'est ça, je crois qu'au Québec, il va vraiment trouver son public. Si les gens, tu sais, j'ai pas vu beaucoup de promos sur le film, mais si les gens, les cinéphiles qui se sont intéressés au dernier festival de Cannes vont savoir un peu c'est quoi, puis je crois qu'il vaut le visionnement. Très authentique. J'ai beaucoup aimé la performance de Juliette Armanet. Et j'ai aimé la plupart des numéros musicaux. Là. Mon préféré étant l'espèce de flashback. Là. Je ne veux pas trop en dévoiler là-dessus, là, mais dans une patinoire. Vraiment, si tous les numéros musicaux avaient pu avoir cette force-là, tu sais, il n'est pas plus flamboyant que les autres. Peut-être un peu plus, mais tu sais, ça reste très, très sobre, somme toute. Je pense que si tous les numéros avaient eu un peu cette énergie-là, ça en aurait fait un grand film. Là, ça en fait un bon film quand même, mais c'est ça, je pense que il y avait place à encore un peu plus de flamboyance, sans dénaturer un peu le propos ou le film qu'on essaie de faire. Mais je vous le conseille vraiment. Honnêtement, si vous aimez les comédies musicales, je pense que... Ben, c'est ça qui est bizarre parce que je l'ai visionné avec Jade là, qui a dû s'absenter aujourd'hui. Et elle me disait qu'il manquait peut-être un peu de puissance aux voix, ou elle aurait aimé que ce soit un peu plus léché en termes de propositions musicales. Est-ce que les amateurs, amatrices de comédie musicale vont avoir le même sentiment qu'elle? Peut-être. Je sais que Jade elle apprécie quand même les musicals, ce que moi, j'aime pas particulièrement. Donc, ça, moi, j'y ai trouvé mon compte. Est-ce que c'est dangereux d'être allé un peu entre les deux, c'est-à-dire d'aller chercher un public qui est moins friand de comédie musicale, mais en même temps de délaisser un peu ceux qui les aiment, ces comédies musicales-là? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Mais moi, j'ai beaucoup aimé, puis je vous le conseille vraiment. Donc, c'est Partir un jour d'Émilie Bonin qui prend l'affiche aujourd'hui à la Maison du cinéma. Pour la chronique sur les tablettes de cette semaine, j'ai visionné le film Blades of Glory du duo de réalisateurs Josh Gordon et Will Speck. C'est un film que j'ai acheté quand même relativement récemment parce que j'étais en préparation de mon grand entretien avec Rémi Gérard. D'ailleurs, elle sera disponible la semaine prochaine sur le channel YouTube de Ciné Histoire. Je vous invite à aller le visionner. Vraiment, 2 heures très intéressantes que j'ai pu passer avec ce monument vraiment de cinéma québécois. Mais bref, c'est ça. Il joue un tout petit rôle au début du film, là. Il parle même pas en fait dans le film, mais c'est pas grave, je l'avais acheté un peu là-dedans, dans cette tendance-là. Je l'avais pas vu avant. Il faut dire que je suis pas un grand fan du cinéma de Will Ferrell. Je trouve que c'est souvent le même film, ou en tout cas le même type de personnage qu'il incarne. Puis c'est ça qui est un peu bizarre avec sa filmographie. Des fois ça marche, puis des fois ça marche pas. Step Brothers, ça marche. Sherlock and Holmes, je sais plus trop quoi, ça marche pas. Eurovision, j'ai vraiment apprécié. Talladega Nights, un peu moins. Fait que c'est ça, c'est vraiment très, très particulier. Mais c'est ça. Donc, le film met pas seulement en vedette lui, mais en vedette John Heder, qu'on n'a pas vu beaucoup, mais qui, en 2007, là, la date de la sortie du film, était quand même au summum de sa popularité. Il venait tout juste de sortir Napoléon Dynamite. Il jouait, évidemment, le personnage de Napoléon. Il y a également Will Arnett et Amy Poehler, donc le couple à l'époque, qui joue ici un duo frères et sœurs. Je sais pas, très... On sent qu'il y a de la tension sexuelle entre les deux. Il y a Jenna Fischer aussi qui était tout juste... je pense qu'à l'époque, il y avait peut-être 2 saisons de The Office qui étaient sorties, mais elle était aussi au début de sa popularité. William Fincher, Craig T. Nelson, voilà. Donc, beaucoup d'acteurs comiques pour un film sur du patinage artistique produit par Ben Stiller. D'ailleurs, c'était Stiller qui devait jouer le personnage de John Heder. Et puis finalement, il a décidé de garder le rôle de producteur seulement. Ça raconte l'histoire de 2 rivaux de la compétition qui sont bannis à vie après qu'ils se soient battus lors d'une cérémonie de remise de médailles. Et puis, ils se rendent compte que dans les règlements, finalement, ils sont peut-être bannis de leur catégorie, mais pas de d'autres catégories. Donc, ils décident de former un couple, entre guillemets, donc de former un duo pour compétitionner dans la catégorie, justement, du patinage de couple. Et c'est pour ça que là, les rivaux vont se transformer en Will Arnett et Amy Poehler, qui jouent les frères et sœurs Van Valdenberg, qui, c'est ça, sont les meilleurs de leur catégorie à eux. Puis, il y a quelques compétitions, dont la plus importante qui se déroule à Montréal en fin de film. Et d'ailleurs, Montréal, c'est ça, est quand même bien mise de l'avant dans le film. L'extérieur des scènes est tourné dans le coin du Stade olympique. Le branding du Stade olympique aussi est quand même beaucoup... quand même beaucoup là. Il y a une scène, je crois, bon, c'est probablement du trucage, mais en tout cas, il y a une scène pas trop loin du Vieux-Port de Montréal. Il y a une course à travers ce que je croyais être le Palais des Congrès, puis finalement, c'est peut-être le Biodôme, là, je ne sais plus trop. Mais c'est ça. Montréal est quand même mise de l'avant. Il faut dire, c'est un film qui, pour moi, n'a pas vraiment marché, malheureusement. Pas que c'est mauvais, c'est juste que... C'est, je sais pas, je l'ai trouvé un peu flat. Il y avait pas beaucoup de gags qui sont venus me rejoindre. Tout est dans la performance un peu burlesque de la distribution. Will Ferrell joue une espèce de macho là, qui s'appelle Chaz Michael Michaels. Bon, probablement une référence à Chad Michael Murray, je sais pas trop. John Heder joue Jimmy McElroy. Et lui, il joue un... personnage orphelin qui a été adopté par un coach qui voulait en faire une star, et puis dès qu'il a été banni, ben il a été renié de sa famille. Le duo frère et sœur aussi, là, des vilains assez typiques. C'est ça, un peu dandy, un peu riche bourgeois, pas fin, de famille prestigieuse. Jenna Fischer joue un personnage un peu plus terre à terre. D'ailleurs, ils vont avoir une semi-relation, ou en tout cas une... Ouais, c'est un début de relation entre son personnage à elle et celui de John Heder. C'est ça. Je suis resté un peu sur ma faim parce qu'il n'y avait pas... En tout cas, je ne l'ai pas trouvé si drôle que ça. Il faut aimer l'humour. C'est ça. Will Ferrell est soit très burlesque ou soit très... En tout cas, tout repose un peu sur sa persona, là, donc d'être un fendant imposant, un peu macho, mais qui, c'est ça, qui est un peu pathétique aussi. On le voit, il n'a pas la shape d'un patineur olympique, ça c'est sûr. Il aime bien milquer les blagues, là, je sais pas c'est quoi, étirer les blagues jusqu'à temps que ce soit plus drôle. Puis que ça redevienne drôle, il y a une course de patin, ben en tout cas, où Will Arnett et Will Ferrell se poursuivent en patin dans les rues de Montréal. Donc, c'est ça. Il y a moins de jokes où les personnages sont peut-être un peu moins intéressants, un peu trop familiers comparativement à Step Brothers ou même Talladega Nights, quoi qu'il y ait quand même certains parallèles à faire aussi, là, le fameux rival puis les compétitions sportives. Mais c'est ça, je crois aussi qu'il y a beaucoup de gags qui ont mal vieilli. Je pense que beaucoup de jokes reposent sur le fait que c'est deux hommes qui forment un couple, puis ben évidemment, on est rendu ailleurs, je crois, dans le type de blagues... sur les homosexuels. Donc, c'est ça. Je pense que ça en fait un film qui va devenir encore... qui est appelé à devenir moins bon d'année en année. Est-ce que... Tu sais, ultimement, c'était correct. C'était sympathique. Je pense qu'il y a beaucoup de mon intérêt qui venait du fait que je voulais voir les lieux de tournage montréalais utilisés, même certains acteurs québécois, même des gens qui parlent en français québécois dans le film. C'est bien, mais c'est ça. Je pense que... c'est pas pour rien qu'il est moins dans la discussion. Là, je pense qu'il avait été bien reçu, somme toute, à sa sortie, mais c'est ça, plus ça avance, je crois que moins le film va demeurer pertinent. Est-ce que je vais le garder dans ma collection? Oui, juste parce que c'est ça, ils mettent Montréal de l'avant, et puis pour un petit souvenir de moi à moi de mon entretien avec Rémi Gérard et de son petit rôle au début, mais ultimement, c'est ça, je crois qu'il mérite. En temps normal, je sais pas si je l'aurais gardé outre ça, mais c'est ça. Je l'ai vu au moins, j'ai les référents, mais c'est ça. Un peu trop oubliable, malheureusement. Donc voilà, c'était Blades of Glory de Josh Gordon et Will Speck.
Un jour, je vais faire un film, il ne sera pas long. Quelques petits moments, collés les uns aux autres sans arrêt.
Wild.
Cette semaine pour la chronique dans ma watchlist, c'est le film de 1960, Inherit the Wind, de Stanley Kramer, que j'ai visionné. Le film se trouvait dans ma watchlist pour deux raisons. Premièrement, parce que c'est un film qui a été nommé à des Oscars. Donc, ça en ajoute beaucoup dans ma watchlist, là, tous ces films qui ont reçu une nomination. Mais également, ça fait partie de la liste des Great Films ou Great Movies de Roger Ebert, donc ce fameux critique du Chicago Sun-Times. Donc, il y avait une liste de 350 films, je crois, là, qui, selon lui, représentaient là, les meilleurs films de l'histoire du cinéma. Donc, ce film-là en faisait partie. Et je suis relativement d'accord avec lui. Honnêtement, c'est un très, très bon film. Je connaissais le titre, mais je ne savais pas du tout de quoi ça parlait. Et puis, je suis surpris de constater que, même si le film date de 1960, ben, il est, encore une fois, d'actualité pour les mauvaises raisons. Là, je vous présente le synopsis, vous allez le constater vous-même. Donc, on suit le professeur au secondaire, Bertram Cates, qui est joué par Dick York, là, qu'on connaît bien pour être le mari de Jenny, je crois. Mais dans Ma sorcière bien-aimée. Là. Je ne l'avais pas vu beaucoup au cinéma. Bon, il n'y a pas un si grand rôle, même si l'histoire tourne autour de lui. Mais bref, on suit ce professeur-là qui est arrêté. Il enseigne dans une école du Sud, là, je crois. Je ne sais pas si on mentionne l'État, mais bon, on devine peut-être Tennessee ou en tout cas ces coins-là. Et puis, il est arrêté parce qu'il enseigne la théorie de l'évolution par opposition au créationnisme, je crois, là, que Dieu a créé la Terre en 7 jours et puis tout ça, par opposition à la théorie de Darwin. Et donc, la ville où l'État avait rendu les enseignements de la théorie de l'évolution illégaux, il est arrêté et puis là, ben ça se mobilise un peu pour parler de ce débat-là. Évidemment, bon, la ville est très religieuse et très conservatrice, donc il n'est pas du côté de l'opinion publique. Et puis là, ben, il y a deux avocats assez notoires qui se présentent. Donc, il y a Henry Drummond, qui est joué par Spencer Tracy, qui, lui, est celui qui va protéger donc le professeur. Et qui, on comprend aussi qu'il y avait une ancienne relation d'amitié avec l'autre, celui qui va décider de poursuivre donc le professeur, donc qui est Matthew Brady, donc même Matthew Harrison Brady, qui est un ancien candidat à la présidence américaine. Il n'a jamais été président, mais il s'est présenté. Puis évidemment, il est très religieux, très conservateur, et il va essayer de défendre le droit du créationnisme et faire emprisonner. Donc, le professeur. Il y a également là, Gene Kelly qui joue dans ce film-là. Je ne l'ai pas mentionné, mais c'est Frederick March qui joue Matthew Harrison Brady. Là, Frederick March qui a quand même joué dans des grands films, mais qui n'est pas peut-être moins connu que Spencer Tracy. Là. March avait gagné, je crois, 2 Oscars, dont pour Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Il a joué avec pour Ernst Lubitsch dans Design for Living, pour René Clair dans I Married the Witch, The Best Years of Our Lives, qui avait gagné l'Oscar du meilleur film en 45-46, quelque chose comme ça. Spencer Tracy, bon, c'est un de ses derniers films également, mais donc c'est ça, il y a Gene Kelly qui est présent aussi, qui lui joue un reporter du Baltimore Sun-Times, je sais pas trop, d'un quotidien, et qui vont payer en fait les droits d'avocat là, du professeur donc à Henry Drummond. Donc les deux sont un peu alliés dans cette mission-là c'est ça, de la science, de faire gagner la science au profit de la religion. Stanley Kramer, si on continue à faire des petites fiches techniques, là, Stanley Kramer, c'est un réalisateur quand même assez connu, qui était quand même, pas en terrain connu, mais il a fait quelques films qui ont fait, pas nécessairement qui ont fait polémique, mais qui ont un sujet, disons, un peu plus politique. C'est lui qui avait réalisé Judgment at Nuremberg l'année suivante, enfin, 1961. Il avait également fait The Defiant Ones en 58, donc sur deux prisonniers qui sont enchaîner ensemble un raciste et un noir et puis qui doivent essayer de se libérer. Il est bien connu aussi pour le film fresque It's a Mad, 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 Mad World, donc de 1963. Donc, il était pas mal dans ses grandes années. Là, il avait fait aussi un peu plus tard, et encore avec Spencer Tracy, le Guess Who's Coming to Dinner, encore une fois, qui aborde la thématique du racisme. Inherit the Wind, donc c'est ce combat-là donc, entre la religion et la laïcité ou la science. C'est un courtroom drama relativement typique, mais tu sais, qui a plusieurs caractéristiques là, des films des années 60. C'est un dialogue très punché, très witty, là. Je sais pas ce serait quoi la bonne traduction en français, là, mais tu sais, ingénieux, rempli de répartie. Surtout pour le personnage de Gene Kelly, qui va disparaître un peu là, dans la deuxième moitié. Qui va s'effacer dans la deuxième moitié du film au profit là, de Spencer Tracy et Frederick March. Il y a un peu d'études de personnages, même si ce n'est pas nécessairement l'objectif principal du film. C'est surtout, là, c'est ça, il y a des belles joutes oratoires, évidemment, dans le procès. C'est basé sur un procès qui a vraiment eu lieu en 1925. Là, je ne me souviens plus si... J'ai le titre de ce procès-là. Là. En tout cas, ça c'était quand même assez populaire. Ben, assez connu. Ah oui, The Monkey's Copes Trial. Ça reprend beaucoup de tout ça. Et c'est adapté, en fait, d'une pièce de théâtre là, des années 50. Voilà. J'ai beaucoup aimé. Encore une fois, ben quand je dis que c'est toujours d'actualité, ben on sait qu'avec l'élection de Donald Trump, il semble y avoir beaucoup de... pratiques conservatrices qui sont réinstaurées. Hein? Pas nécessairement au niveau religieux, disons, quoique, mais toute la question là, des identités de genre on semble faire quelques pas de recul dans les derniers mois, dernières années aux États-Unis sur plusieurs questions, l'avortement et tout ça. Donc, ici, c'est vraiment l'idée du progrès versus de la tradition, entre guillemets. Il y a des éléments plus grands que nature là-dedans qui m'ont pas nécessairement fait décrocher, mais qui m'ont fait rappeler que je regardais un divertissement. Mais finalement, avec de la petite lecture, je me suis rendu compte que dans le procès duquel le film est basé, c'est réellement comme ça que ça s'est passé. Là. Il y a une scène, surtout vers la fin, là, je pense pas en dévoiler trop, mais où le procureur de la couronne est amené à témoigner comme un expert dans le cas. Je ne pensais pas que c'est quelque chose qui était possible dans le système judiciaire, mais bon, ça a été fait dans le film dans le vrai procès de 1925. C'est un des éléments plus grands que nature là, qui m'ont un peu choqué, mais qui finalement, c'est ça, existe pour de vrai. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce film-là, tant au niveau des performances là, qui, oui, sont un petit peu surjouées, là, surtout celle de Frederick March, qui est cette espèce de religieux, un peu fanatique et populiste. Spencer Tracy, c'est une de ses grandes performances, je crois. Je ne l'ai pas vu dans beaucoup de choses, mais il avait beaucoup travaillé, lui, avec Stanley Kramer, It's a Mad, Mad, Mad World, encore une fois, Guess Who's Coming to Dinner, qui était son dernier film. Là. Il n'a pas fait beaucoup de films dans les années 60 parce qu'il était malade et alcoolique, mais c'est ça, il a quand même livré quelques-unes de ses performances mémorables. Je crois qu'il y a quand même des petits problèmes de rythme. Je pense qu'on aurait pu peut-être essayer de condenser un peu plus l'histoire. Là. Surtout au début, ça prend du temps avant de se lancer dans le cas à proprement parler. Il y a une grande scène qui, selon moi, est un peu superflu là, où on détermine qui formera en fait le jury. Ça dure un peu trop longtemps, je crois, tout comme quelques scènes qui impliquent la foule, là, ou en tout cas à l'arrivée de Brady, où vraiment là, la ville se mobilise, lui chante des chansons et tout. Il y a certaines scènes qui, selon moi, sont un peu superflues parce que, ultimement, je pense qu'on regarde ce film-là pour avoir un bon courtroom drama, puis ces scènes-là ne servent pas nécessairement cet objectif-là ou n'ajoutent pas n'ajoute pas vraiment grand-chose au message qu'on essaie de passer. Mais à part ces petits problèmes de rythme-là et quelques performances un peu surjouées, j'ai vraiment bien aimé. Honnêtement, je m'attends... Ben, j'avais pas vraiment d'attente. Le film a quand même été nommé là, à 4 Oscars, notamment pour les performances. Là. Spencer Tracy a eu une nomination. Le scénario a obtenu également une nomination, tout comme la direction photo noir et blanc. Bon, à l'époque, on divisait la direction photo des films noir et blanc et des films en couleur. Et au niveau du montage également, bon, ce qui est relativement commun pour des courtroom dramas. Là. Mais c'est ça, le film n'en a pas gagné, mais a quand même eu 4 nominations. Puis honnêtement, là, si vous aimez les courtroom dramas, je vous le recommande vraiment, parce que c'est pas juste... Des fois, ça peut être divertissant là, de voir bon, un meurtre ou en tout cas essayer de retracer un peu une enquête. Là, mais c'est des films sur des sujets des sujets polarisants. Je pense que ça fait des bons courtroom dramas aussi. Ça permet de dresser souvent là, le portrait de tout le monde. Et clairement, là, le film prend un parti pris pour la science versus la religion. Là, on sent, il est plus du côté de la science qu'autre chose. Mais... puis c'est ça, c'est dur peut-être d'avoir je sais pas si c'est parce qu'on vit dans une société laïque, ce qui n'était pas vraiment le cas là, en 1960. À l'époque, peut-être qu'il y a des gens qui pouvaient se rallier du côté des créationnistes et des religieux. Aujourd'hui, je pense que c'est ça, on se campe pas mal plus de l'autre côté de par notre laïcité d'il y a plusieurs décennies. Mais c'est ça, j'ai retrouvé plusieurs éléments ou plusieurs discours. Récemment, là, il y a eu des lois sur la laïcité ici au Québec. Est-ce qu'on garde le crucifix à l'Assemblée nationale? Est-ce qu'on garde tous les signes religieux à l'école? C'est abordé là et de façon plus frontale que je l'aurais cru. Honnêtement, des bons arguments... pour le retirer, évidemment, là, mais pour souligner un peu là, l'espèce de régime à deux vitesses. On a l'impression, avec les débats sur la laïcité au Québec des dernières années, que oui, on veut être laïque, mais en même temps, le crucifix fait pas mal à personne. Là. C'est pas grave si on l'enlève pas, mais le voile, là, oui, ça, il faut absolument l'enlever. Là, c'est comme... ça démontre un peu là, quelques paradoxes ou quelques irritages problématiques qu'on continue à entretenir un peu par... soit par paresse de les retirer ou juste par racisme systémique, je sais pas trop, mais... en tout cas, c'est pas du racisme, mais en tout cas, religion, discrimination religieuse systémique. Puis ce film-là, pour 1960, aborde très bien la question, je crois, là, plusieurs des arguments. Puis je pense que c'est pas anodin que le film a eu 2 ou 3 remakes par la suite, plus toutes les adaptations théâtrales. Donc, je pense qu'à toutes les époques, il a été relevant. Je lisais la critique de Roger Ebert qui mentionnait qu'en 2005, donc au moment où il écrivait sa propre critique du film pour l'ajouter dans sa liste des meilleurs films, il y avait un cas similaire en Pennsylvanie, je crois, en 2005. Donc, sur la question religieuse et puis qu'est-ce qu'on doit ou qu'est-ce qu'on peut enseigner aux enfants. Donc, c'est ça. J'ai vraiment beaucoup aimé puis j'espère que vous aimerez si jamais vous le syntonisez. C'est le film Inherit the Wind 1960 de Stanley Kramer qui est disponible sur 2 plateformes, donc sur Amazon Prime et également sur Tubi, donc une plateforme gratuite de streaming. Il y a quand même beaucoup de publicité, mais c'est gratuit, donc pourquoi pas. Je vous le conseille fortement.
Un jour je vais faire un film, je ferai la prise de son, la réalisation, le montage et la direction photo.
C'est déjà la fin de cette émission. Je me dépêche parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, mais voilà, le film Les Barbares et le film Partir un jour prennent l'affiche tous deux à la Maison du cinéma. Allez voir ça. Regardez également Inherit the Wind, donc qui est disponible sur Amazon Prime. Voilà, c'était Ciné-Histoire. La semaine prochaine, on va faire un topo sur la franchise, en fait, 28 Later. Et c'est ça, d'autres nouveautés qui vont prendre l'affiche. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On se retrouve la semaine prochaine.